en particulier à l'espace Siloé à Montbéliard, qui s'appelle à Chauvroche aussi. Et ce livre s'appelle Le déni, enquête sur l'Église et l'égalité des sexes. Il est paru en janvier 2014, c'est bien ça. Et il est préfacé par Joseph Moin, ce qui est une référence. Donc, en quelques mots, Alice Charlie, oui, est venue seule parce que Maud Amandier habite très loin, que ça n'était pas très commode pour elle de venir. Alice Charlie a été sa déchette, aumônier en lycée, aumônier d'étudiants, en particulier à l'Institut catholique et au lycée Sainte-Geneviève à Versailles. Et ses fonctions qu'elle a occupées dans l'Église catholique l'ont amenée à se poser un certain nombre de questions sur la façon dont le rôle des femmes, mais aussi des hommes, était perçu et organisé dans l'Église catholique. Alors, je ne vous en dirai pas plus, elle va faire elle-même sa conférence, tant qu'à faire. Simplement, je vous signale la suite de notre programme. Donc, le thème de cette année sera ensuite religion, politique et engagement, avec un programme tout à fait intéressant de 5 conférences. Vous avez des programmes sur la table à la sortie ou vous les avez trouvés sur Internet. Donc simplement le prochain, c'est donc pas très longtemps finalement, aussitôt après les vacances de Toussaint, le 5 novembre. Et c'est Michel Bertrand, professeur qui fait professeur de théologie à l'Institut protestant de Montpellier, qui nous aidera à réfléchir sur quelles paroles des églises dans l'espace public, Dieu ou César. Et ceci d'une perspective très protestante. Bon, ensuite, vous verrez qu'il y a une conférence avec la CAT, une autre plutôt tournée vers l'islam, une en lien avec les médias, par Jean-Claude Petit, que les lecteurs de La Vie connaissent bien, et puis ce sera la jésuite pour la dernière conférence, une réflexion sur le sens de nos engagements. Voilà, donc un programme, je pense, fort riche pour cette année. Bon, vous savez qu'il y a à la sortie une corbeille pour participer aux frais de la venue de la conférencière. Et si jamais il y a un petit peu de bénéfice, ça sert à augmenter le stock de livres de la bibliothèque municipale en ce qui concerne les religions. Et puis, vous pouvez aussi adhérer à l'association, ce qui nous fera bien plaisir parce qu'on aura l'impression d'être soutenus dans nos efforts pour réaliser ces conférences et augmenter le stock de livres. Et il devrait y avoir d'ici tout à l'heure des bulletins d'adhésion sur la table aussi à la sortie. Donc le programme de la soirée, bien ma foi, c'est comme d'habitude. Alice Chablis va faire sa conférence à peu près une heure. Et puis ensuite, il y aura un temps de débat et de questions de la salle. Ah, voilà les bulletins d'adhésion qui arrivent. Bien, je passe la parole à Alice.
Donc, le mieux, c'est peut-être de me tenir. Est-ce que vous m'entendez là?
Oui.
Non, mal. Donc, je vais essayer de monter ma voix. Est-ce que vous m'entendez? Non, toujours entendu. Ça va venir? D'accord. À peu près. Oui, parce que sinon ça va pas. Je vais essayer de parler fort quand même. Essayez. Oui, c'est pour ça, c'est pas très commode de dire en même temps. Je tiens, ça. Est-ce que comme ça, ça va? Donc, je vais essayer d'être un petit peu plus mordante sur ma voix, c'est ça. Voilà. Voilà, un autre jour. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours agréable. Faites-moi des signes si vous n'entendez pas, parce que j'essaie de régler en fonction de. L'autre jour, j'étais chez des amis qui me disent mais si tu n'es pas contente, tu n'as qu'à aller chez les protestants. Donc, voilà. Je vous remercie de m'avoir invitée. Comment ? Non, je sais bien, mais malgré tout, c'est Mère Christine que j'ai contactée, etc. Et c'est vrai que je suis. J'ai un petit peu discuté avec Philippe et Mère Christine pour des gens qui habitent comme moi dans la région parisienne où l'Église catholique est quand même extrêmement dominante. Sentir ce mélange, cette capacité d'être ensemble, je trouve ça absolument merveilleux. Voilà. Moi, j'ai tendance à penser qu'on est tenant du même Jésus-Christ, donc je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, pourquoi on n'est pas ensemble vraiment. Bon, ça c'est ma position personnelle. Donc je ne fais pas vraiment personnellement de différence. J'ai probablement tort, mais c'est, voilà. Ça c'est une position personnelle comme ça depuis le début. Essayer de faire avec vous aujourd'hui, c'est d'analyser en fait le système homme-femme dans l'Église catholique et montrer, et donc je ne suis pas du tout compétente pour les protestants, je parle vraiment de l'Église catholique, vous m'entendez là?
Non.
Pas vraiment, pas du tout.
Elle est devant, mesdames. Parce que moi j'entends bien.
Donc, je vais faire un peu plus loin, je vais essayer de parler plus fort. Est-ce que c'est mieux ou pas? C'est mieux? Oui, bon, alors j'écarte pour que ce soit pas gênant. Et vous me faites un signe si vous n'entendez pas, je vais essayer de forcer. D'accord. Donc, merci. Je voudrais donc montrer le système homme-femme dans l'Église et pas seulement parler des femmes. En fait, assez vite, quand on a eu ce projet de livre, on s'est rendu compte qu'il fallait traiter l'égalité et ne pas rester sur. Sinon, on est tout de suite taxé de féministe. Et en fait, le féminisme a une connotation négative. Donc, c'était un petit peu difficile de partir comme ça. Et je montrerai comment il y a des changements de paradigme extrêmement forts dans notre société et où et pourquoi l'Église résiste à ces changements. C'est donc un livre qui a été écrit à deux. Nous avions travaillé ensemble pour refaire une revue dans un mouvement d'action catholique, le MCC, le Mouvement catholique chrétien. Et il y a quelques années, mon mari était responsable de ce mouvement et donc j'avais ce journal en charge. Et j'ai embauché donc ma co-auteure, Maud, Agnès, enfin bon, on a des pseudos, donc c'est pas très commode. On ne se cache pas du tout, si vous voulez, mais on l'a fait parce que c'était au moment des manifs pour tous et que les réseaux sociaux étaient quand même assez difficiles. J'avais aussi une amie qui s'était fait vraiment agresser par téléphone, etc. Donc on a choisi de faire ça. Donc si je dis Maud ou Agnès, c'est la même. Moi, je m'appelle Sabine et sur le livre, je m'appelle Alice. Voilà. Donc ça a été une expérience tout à fait passionnante d'être à deux. On savait qu'on travaillait très bien ensemble et ça a été vraiment un travail commun, c'est-à-dire qu'on l'a vraiment écrit ensemble. On n'avait pas un chapitre, un bout, un tout, non, on a tout fait ensemble. Donc elle a la bite grasse, on avait donc les ordinateurs et puis on tapait ensemble. On discutait et on tapait. Voilà comment ça s'est réalisé. Donc c'était une expérience originale et je disais à un de vos amis que vous m'auriez dit il y a 3 ans que je ferais ce livre, je vous aurais un petit peu rayonné. Voilà, ça a été une espèce de concours de circonstances et voilà. Alors, notre sujet était cette fameuse situation des femmes dans l'Église catholique. C'était notre expérience. Et nous avons commencé par interroger des femmes. Et on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas libres de parler. Et on s'est dit qu'on n'irait pas assez loin en interrogeant seulement des femmes. Et à ce moment-là, on a décidé de chercher dans les textes du magistère. Il se trouve que l'Église catholique produit un nombre de textes appelés du magistère absolument énorme, de différentes sortes. Il y a donc le droit canon, toutes les encycliques, toutes les lettres, les exhortations, les homélies des papes, voilà. Et puis le catéchisme de l'Église catholique, qui est quand même un gros morceau avec ses 2800 numéros. Donc, un gros corpus, disons. Voilà. Mais on s'est dit, c'est intéressant parce que c'est difficile de parler que de ressentir, d'analyser. On ne pouvait pas faire d'analyse sociologique, on n'est pas sociologue. Donc on s'est dit, bon, on va regarder ce qu'ils disent sur ce système-là. Qu'est-ce qu'ils disent des hommes, qu'est-ce qu'ils disent des femmes? Donc, on avait un certain nombre de questions de départ. On s'est dit, bon, on va chercher à partir de ces questions ce qui se passe dans ces textes. Alors les questions, c'était le genre, elles sont dans le livre d'ailleurs, chaque chapitre a sa question. Pourquoi l'Église refuse la communion des divorcés mariés? Donc là, on est dans l'actualité. Pourquoi les femmes ne peuvent pas être prêtres? Pourquoi les femmes secondent les hommes? Pourquoi l'Église a peur de l'égalité? Pourquoi l'Église donne un modèle aux femmes? Quel modèle masculin l'Église catholique renvoie au monde? Alors là, je fais un petit aparté pour vous dire, quand je dis l'Église, je suis catholique et on a cette espèce d'arrogance de penser que, et de réflexe que quand on dit Église, eh ben, en fait, on parle de l'Église catholique mais on ne le dit pas. Et c'est quelque chose que je m'étais dit avant de venir, et en fait en parlant avec Marie-Christine, elle m'a tout de suite dit, mais non, pas Église, Église catholique. Donc romaine. Vous pardonnerez, romaine, absolument, elle m'a appris ça. Et vous me pardonnerez si de temps en temps ça sort Église. Vous saurez que je parle de l'Église catholique. Voilà. Et j'espère que vous m'excuserez. J'ai écrit le plus possible l'Église catholique, mais je ne vais pas forcément le dire. Voilà. Alors, on a donc interrogé ces écrits, lu ces écrits à la lumière de ces questions, et on les a aussi confrontés à la pensée contemporaine. Pour la question d'hommes et de femmes, étant donné les changements de réflexion qui se font depuis 200 ans, c'était important qu'on soit un peu renseigné sur ces questions-là. Et bien sûr, nous avons confronté à la lecture de l'Évangile, qui était quand même le fond de l'intérêt. Si on ne confronte pas à l'Évangile, à ce moment-là, on est dans la sociologie. Il faut se rendre compte qu'en fait, c'est une grande liberté que nous avons prise toutes les deux. On est sortis de notre place de caté, de secrétariat, de petite main, voilà. Et on a en fait transgressé l'ordre symbolique de la différence des sexes dans l'Église catholique. Dans l'Église catholique, les hommes parlent, les hommes écrivent, et les femmes écoutent, font beaucoup de travail, mais se taisent. Alors, on peut inclure les laïcs là-dedans. Heureusement, il y a les diacres. Mais bon. Donc, en fait, on a inversé les rôles, c'est-à-dire qu'on a analysé et jugé des écrits d'hommes, alors que normalement, c'est le magistère qui doit donner à penser. On a aussi transgressé les pratiques de qualification des savoirs institués. Je ne suis pas docteur en théologie, ni chargé de cours à Sciences Po, et Agnès non plus. Nous avons aussi transgressé les qualités attendues des femmes. Je ne suis pas particulièrement douce ni diplomate. J'espère que ceux avec qui j'ai dîné ne m'en voudront pas. Voilà. On nous a beaucoup accusés d'être tranchants, d'être caches, d'être décapantes. Mais en fait, nous avons pensé que c'était quand même de notre responsabilité d'adulte, baptisé, de participer au travail de la pensée que l'Évangile nous amène à faire. Voilà. Alors, il y a à peu près deux parties, si vous voulez. Comment la structure de l'Église catholique discrimine les femmes et structure une différence homme-femme extrêmement forte. et essayer de comprendre après ce qu'elle refuse, ce qui l'a conduit dans une impasse et pourquoi elle le fait-elle. Alors, nous avons découvert dans tout ce travail que l'Église catholique construit de l'inégalité par ses lois. On le verra tout à l'heure. Elle justifie ces inégalités par des discours et des représentations extrêmement puissantes. Nous avons même été surpris de la cohérence de ce système, bien qu'il soit menacé par les évolutions des sociétés et de la pensée sociale. En fait, l'ordre social est toujours construit, et l'Église est aussi construite, c'est-à-dire qu'elle est une société avec un ordre propre. Elle a mis du temps, d'ailleurs, à construire son système, et elle n'a pas toujours existé, ce qui n'est pas forcément évident pour beaucoup de catholiques. Elle construit une société inégalitaire et elle l'inscrit dans sa loi. Alors elle opère de façon très particulière, et c'est écrit dans le droit canon, elle opère par séparation des sexes. La première séparation, c'est la séparation claire-laïque. Le canon 207 vous dit, par institution divine, il y a dans l'Église parmi les fidèles, les ministres sacrés qui sont en droit appelés clercs et les autres qui sont appelés laïcs. On a donc une séparation de deux populations. J'ai cherché un mot, j'ai trouvé que caste. Il y a deux castes qui sont véritablement séparées par le droit. Une deuxième séparation s'ajoute pour les femmes. Un autre canon dit « Seul un homme baptisé reçoit validement l'ordination sacrée. » L'appel de Dieu est donc sexué. Elles sont donc exclues par principe du sacrement de l'ordre et donc de la vocation sacerdotale. Elles ne peuvent pas se projeter prêtres. La question a été posée très fortement après le Concile. Elle a été arrêtée en 1965 dans un document important qui s'appelle Inter Ecclesiae et qui va être repris par Jean-Paul II, lui recopie à peu près le même texte en le résumant un peu. C'est pourquoi, afin qu'il ne subsiste aucun doute sur une question de grande importance qui concerne la constitution divine elle-même de l'Église, je déclare que l'Église n'a en aucune manière le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes et que cette position doit être définitivement tenue par tous les fidèles de l'Église. C'est donc la loi. Et la loi, on sait que le droit institue, donc on est bien dans l'institution de l'Église. Une troisième séparation s'opère. Les clercs sont tenus par l'obligation de garder la continence parfaite et perpétuelle à cause du royaume des cieux. Ils sont donc astreints au célibat. Je ne résiste pas à lire la suite. Les clercs se conduiront avec la prudence voulue dans leur rapport avec les personnes qui pourraient mettre en danger leur devoir de garder la continence ou causer du scandale chez les fidèles. Donc d'un clergé à sexe unique masculin, on en arrive à un clergé asexué, où virginité, chasteté et sacerdoce font couple. C'est donc un verrouillage par le droit très fort pour que les femmes ne s'approchent pas du sacré, et elles sont même un danger pour les prêtres. Mais on peut aller encore plus loin. Le droit institue donc le masculin, il n'institue pas le féminin, puisqu'il est en creux, on ne parle pas d'elle. Et il faut voir pourquoi ce masculin est institué de façon si forte. Alors je reprends le canon tout à l'heure. Seul un homme baptisé reçoit validement l'ordination sacrée. Il faut le rapprocher de celui-là. Seuls les ordonnés sont capables d'exercer le pouvoir de gouvernement dans l'Église. Donc on voit que l'ordination, le sacerdoce, est absolument lié au masculin et au pouvoir de gouvernement. Je crois que c'est là le nœud de toute l'organisation sociale de l'Église. Le pouvoir sera masculin, célébré, gouverné, pas de séparation des pouvoirs. Et en plus,
On a une espèce d'organisation du système de pouvoir vertical. Vous le savez tous, on a un pape, des évêques, des cardinaux, ça redescend sur les prêtres, etc., les laïcs en dessous. Et on a un pape qui a tous les pouvoirs, en réalité. Et je pense d'ailleurs que le synode actuel montre bien qu'il a tous les pouvoirs. Il conduit son affaire de façon extrêmement personnelle, forte, après, sur le fond ou la forme, mais il a le pouvoir, véritablement. Il vient de mettre 9 rapporteurs de plus pour la rédaction du dernier papier qu'il va sortir samedi. Là, il y a 2 jours, voilà, il a décidé, en toute liberté, comme dit le Vatican, le seul homme libre, c'est le pape. Voilà. Le pontife romain, en vertu de son office, qui est celui de vicaire du Christ et de pasteur de toute l'Église, a sur celle-ci un pouvoir plénier, suprême et universel, qu'il peut toujours exercer en toute liberté. Un seul homme libre, le pape. Voilà. Alors, ça a beaucoup de conséquences, parce qu'en fait, il va s'approprier en même temps le savoir, la vérité, pas qu'on a beaucoup de citations, mais être maître de la vérité, de la parole, de voilà, ça laisse pas beaucoup de place, encore une fois, aux femmes. Et du coup, l'imaginaire masculin est assez particulier, c'est l'imaginaire du chef. C'est une représentation masculine qu'on voit énormément dans la société. Les études sociologiques qu'on peut lire chez Dominique Méda ou Brigitte Grésy sont absolument claires. Les hommes sont au pouvoir et les femmes au service, même dans les métiers et même à la maison. Encore, même si ça bouge beaucoup dans nos sociétés qui évoluent. Donc c'est intéressant de voir que cet imaginaire-là, il n'est pas seulement dans l'Église, mais il est aussi dans la société. Alors, cette figure du chef est en plus intériorisée comme une figure du salut, nous attendons du pape, qui sauve l'Église, catholique. Plus loin. D'accord.
Oui, ça résonne.
On trouve aussi quelque chose d'étonnant, pour moi, qui m'a étonnée. Le Conseil dit, cette Église qui doit s'étendre à toute la terre et entrer dans l'histoire humaine domine en même temps les époques et les frontières des peuples. C'est-à-dire qu'à cet imaginaire du chef s'associe l'imaginaire de la conquête. Donc on se rend compte qu'on est sur une vision anthropologique, si on peut employer ce mot, très romaine en réalité, très citoyen romain. Et je pense que l'Église reste extrêmement influencée par la civilisation romaine des premiers siècles où l'Église est née pendant que l'Église est née. Voilà, donc là, c'est pour les représentations masculines. Alors, si on cherche du côté des femmes, le droit n'existe pas. Donc, nous n'existons que par des représentations féminines. Le tableau change complètement. Et autant on trouve assez peu de choses, finalement, sur le masculin, autant on trouve une quantité de discours sur les femmes, en dehors du droit, bien sûr. Nous avons donc des représentations féminines qui nous sont données comme modèles. Ève, Marie, en particulier, et surtout Ève et Marie. Si je parle de représentation, c'est important de comprendre que en sociologie politique, les représentations, ce sont les modèles qu'on intériorise et qui font qu'on trouve les choses normales et naturelles. Voilà, c'est ce qui permet d'intérioriser les normes d'une société ou d'un groupe. Voilà. Donc Ève et Marie prennent une place absolument énorme dans l'Église catholique, vous le savez tous en fait. Voilà, mais dans le fond, pourquoi ? Quel est le sens de ces modèles qu'on nous donne ? En fait, c'est une représentation, ce sont des représentations assez complexes. Je vais résumer, on pourrait en dire encore d'autres choses, mais pour être assez claire, je vais essayer de sortir ce qui me paraît le plus important. Elles ont chacune un double rôle, dont l'un est commun, c'est le service. Ève est épouse d'Adam et servante. Marie est mère et servante. L'une est désobéissante, l'autre est obéissante. Bon, prenons d'abord Ève. La base, évidemment, c'est la Genèse. Il se trouve qu'on a constaté que dans ses écrits, donc en particulier dans les encycliques, une des références majeures qui sort, c'est la Genèse. La pensée magistérielle est forgée, mais absolument par la Genèse, avec l'interprétation catholique donnée, c'est-à-dire une interprétation relativement étroite, et toujours la même. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas ce travail qu'on trouve ou chez les protestants, ou chez dans l'exégèse juive. Il y a la Genèse, elle nous dit ça, et c'est comme ça. Et c'est assez dur d'ailleurs de se rendre compte de ça, parce que du coup c'est très enfermant. Alors par exemple, Jean-Paul II, qui est quand même le chantre d'Ève et de Marie, il a écrit énormément, en particulier cette encyclique qui s'appelle « Mulieris Dignitatem », il dit, dès le début, il dit « La Genèse constitue la base immuable de toute l'anthropologie chrétienne. » Or, l'anthropologie, c'est tout de même la science qui tente de comprendre comment les sociétés ont organisé leurs rapports sociaux, l'ordre symbolique des sociétés. C'est une science de terrain, d'observation, qui compare, discerne les diversités des sociétés. Et il utilise donc ce mot de façon, à mon avis, vraiment à faux. En fait, ce dont il parle, quand il parle de base immuable, je pense qu'il parle beaucoup plus de cette philosophie éternelle, néoplatonicienne, de la loi naturelle, de Dieu qui crée et qui a sa pensée avant même que le monde soit créé. Donc il est dans une pensée néoplatonicienne qu'il sacralise puisqu'il dit que c'est le dessein de Dieu. Et quand il commente la phrase de la Genèse « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie », il continue dans ce type de pensée en disant « Depuis l'origine, donc, dans la création de la femme est inscrit le principe de l'homme ». Alors, on a tous les mots, si vous voulez, d'une pensée philosophique néoplatonicienne. Depuis l'origine est inscrit le principe de l'être. Donc, c'est un principe premier pour Jean-Paul II. Donc, il en tire la conclusion, à longueur de texte, que les femmes sont assignées au service des hommes. Et c'est ce que nous avons trouvé, mais de façon absolument récurrente. On la retrouve, je reprends ce que je disais tout à l'heure, dans notre structure sociale et familiale. Les travaux de Brigitte Grésier et Dominique Médal le montrent très très clairement. La répartition des métiers, des tâches domestiques et parentales montrent qu'effectivement la femme est au service de l'homme. Et c'est une question assez fondamentale à mon sens, puisque cette question détermine l'infériorité structurelle des femmes. Et donc là, c'est plutôt les travaux de Françoise Héritier, de Sylvia Nagasinski qui le montrent. C'est-à-dire que c'est assez frappant, si vous voulez, de trouver ces textes qui sont quand même extrêmement discriminants pour les femmes, qui leur assignent des rôles très précis, et de retrouver dans les études sociologiques et anthropologiques, justement, qu'en fait, ça fonctionne sur le même principe. Alors, la deuxième caractéristique d'Ève, vous la connaissez, c'est le péché, elle est créée seconde et elle pêche en premier. Donc, on a cette figure qui dévalorise les femmes. J'insiste pas parce que c'est quand même aujourd'hui très connu, et malgré tout, c'est... Aujourd'hui, on prend du recul par rapport à ça, mais ça continue de se trouver dans les textes du magistère. Jean-Paul II continue. D'une certaine façon, la description biblique du péché originel dans la Genèse répartit les rôles qui ont tenu la femme et l'homme. Donc Jean-Paul II tient bien à répartir les rôles entre la femme et l'homme. Et le rôle là de la femme, c'est le rôle d'être première dans le péché. avec tout ce que ça a eu comme conséquence dans la vision de la femme, sa dévalorisation, encore une fois, la possibilité de la culpabiliser. Il y a plein de choses à dire, mais il faut passer un petit peu plus vite. Je vais peut-être parler un petit peu de Marie, avec cette piété mariale qui est revenue en force depuis Jean-Paul II, quoique Paul VI avait écrit des textes aussi très mariaux. Il se trouve que les papes sont des dévots de Marie, c'est assez frappant. Hein, le premier geste de François, ça a été quand même d'aller prier Marie à la chapelle. C'est pour moi très... je ne comprends pas. Donc, il faut vraiment comprendre ce que ce modèle donné explicitement par le magistère porte comme sens, comme représentation et comme argument pour assigner des rôles. Et comment ça entretient des stéréotypes discriminants et dévalorisants. Jean-Paul II nous dit toujours... Je voudrais vous résumer en deux paroles la sublime leçon de l'évangile de Marie, la Vierge est mère, la Vierge est modèle. Alors en quoi est-elle modèle? Il s'agit pour lui de retrouver l'essence, encore un mot néoplatonicien, de la femme telle qu'elle fut voulue dans la création et donc dans la pensée éternelle de Dieu. Donc en fait, toute femme devra se retrouver dans le modèle de Marie, qui est même dans la pensée de Dieu, dans le dessein de Dieu. Il continue. Le modèle constitué en Marie montre clairement ce qui est spécifique à la personnalité féminine. On est donc là au fondement du discours que l'on entend énormément depuis l'Évangile pour tous, c'est le différentialisme, c'est-à-dire que les hommes et les femmes sont fondamentalement différents. La plénitude de grâce accordée à la Vierge de Nazareth signifie la plénitude de la perfection de ce qui est caractéristique de la femme, de ce qui est féminin. Ça devient assez dur pour nous, femmes, je trouve. C'est une autre source de culpabilité. Nous ne serons jamais à la hauteur de Marie. Et même, encore plus loin, on va jusqu'à dire... Il faut nous orienter maintenant, je mets toute la citation parce qu'il a une façon d'écrire qui fait que je ne vous lis pas juste une ligne, je vous en lis quatre. Il faut nous orienter maintenant notre méditation vers la virginité et la maternité, deux dimensions particulières selon lesquelles se réalise la personnalité féminine. Ces deux dimensions de la vocation féminine se sont rejointes et unies en elle d'une manière exceptionnelle, de telle sorte que l'une n'a pas exclu l'autre, mais l'a admirablement complétée. Donc, on nous donne un modèle où il faut être à la fois vierge et mère, ce qui est un petit peu compliqué, là ça devient impossible. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de double injonction, en psychologie ça s'appelle comme ça, l'hémoglobine, et encore une fois, les femmes se retrouvent dans une situation d'impossibilité, en fait, de paradoxe tel que... Il va falloir choisir, donc il y a même des femmes qui peuvent être ni vierges ni mères. Et quand on est vierge, on n'est pas mère, et quand on est mère, on n'est pas vierge. Donc, on n'est jamais bien, quoi. Voilà le résultat. Voilà. Alors, ce qu'on pense moins, peut-être, c'est que Marie est décrite dans tous ses textes comme servante et obéissante. La maternité de Marie imprégnée jusqu'au plus profond d'elle-même de l'attitude nuptiale de servante du Seigneur constitue la dimension première et fondamentale. Donc en fait, c'est une attitude nuptiale et de soumission et de service. La vocation de la femme dans le mariage va devenir le service de l'homme. Et ça, on retrouve des textes qui le disent, mais vraiment explicitement. Et Jean-Paul II le dit explicitement. Derrière, il y a effectivement tous les stéréotypes que nous connaissons. Donc, on voit bien que l'Église catholique a façonné la société. La société s'en est quand même détachée, mais a gardé des représentations qui restent extrêmement fortes. je vous cite Brigitte Grésy, aux femmes, l'intuition, l'empathie, le sens de la coopération, aux hommes, la rigueur, l'autorité, les talents de stratège. Le risque est grand de valoriser des compétences dites féminines avec une dérive essentialiste qui naturalise des compétences sociales et cantonne les femmes dans des fonctions de lien, de communication ou de ressources humaines, et les hommes dans des fonctions d'autorité et de production. On reconnaît bien là quand même nos sociétés, le fonctionnement des universités, des entreprises. Alors qu'elle continue, bien au contraire, les compétences n'ont pas de sexe, et toutes ces identités imposées inhibent les élans et limitent le champ des possibles pour les femmes. Dans une étude qui a été faite dans les entreprises, on a montré que dans l'entreprise, c'est là où la notion de représentation est importante, et donc d'intériorisation des schémas. Dans l'entreprise, les hommes se perçoivent eux-mêmes et sont perçus par les femmes comme ayant des qualités de leader. Là où les femmes se perçoivent elles-mêmes, ils sont perçus par les hommes comme ayant des compétences d'aide et d'appui. Donc nous avons bien, nous, tous intériorisé que les femmes sont plutôt dans le lien, le service, la douceur, la gentillesse, et les hommes dans le commandement, le leadership, etc. Et même s'il y a des différences de personnalité, de ça, on a ça dans la tête. Voilà. Et les conséquences sont quand même assez grandes. On disait à table que le divorce causait beaucoup de pauvreté, en particulier chez les femmes. Eh bien oui, les femmes sont les pauvres du monde, et moi j'aimerais que le synode se soit occupé plutôt des femmes et de la pauvreté des femmes, et donc des enfants, puisque très majoritairement, malgré tout, elles sont en charge des enfants, même si les choses évoluent. Et pour moi, faire un synode de la famille, mais c'est vraiment pas le problème. Le problème, c'est la situation des femmes, c'est leur éducation, c'est leur libération, c'est l'éducation des hommes pour leur dire que les femmes sont à égalité et qu'ils ont tout à y gagner et non pas à perdre. Quelques chiffres. La charge de travail des femmes, c'est 2/3 du travail dans le monde. C'est les chiffres de l'ONU. Elles ont 10% des revenus salariaux, et moins de 2% de la propriété, et moins de 5% des prêts bancaires. Donc on n'est pas sur une question sociologique à la limite française, même si la situation n'est pas facile pour les femmes. Là, on est sur une question mondiale. Alors, je ne parle pas des violences, mais je pense que c'est lié à l'imaginaire du chef et de la domination autorise quelque part les violences. Alors, nous savons que les femmes sont plus victimes de violences que les hommes. Je parie qu'il faudrait beaucoup de temps pour avoir des chiffres. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'Église ne s'occupe pas de ça? Pourquoi elle continue sur son... Bon, pourquoi elle continue un peu difficilement changer son droit? Je crois qu'on n'en est pas là. Mais au moins se poser des questions. Et j'aimerais juste parler un tout petit peu de quelque chose qui s'appelle le paradigme. Nous sommes dans un monde, où on a parlé aussi à table, où les choses évoluent très vite. On disait Elisabeth. C'est pas grave. Et les choses évoluent extrêmement vite, donc il y a cette espèce de changement de famille, de beaucoup de choses d'ailleurs, en science, en sociologie. Et je voudrais juste expliquer un petit peu ce que c'est pour, encore une fois, avoir une vue plus large que ce qu'on a d'habitude. Je prendrai un exemple, c'est la tectonique des plaques, qui nous permet de comprendre ce que c'est qu'un changement de paradigme. Au début du XXe, un Allemand a mis l'hypothèse que les continents bougeaient et dérivaient. Tout le monde a ri. Évidemment que la Terre, c'est du solide, c'est le bon sens, ça ne bouge pas. On est sur la Terre, c'est ferme. Et en fait, on s'est rendu compte que oui, les continents sont solidaires de plaques terrestres qui bougent entre 1 et 5 cm par an et qui causent des tremblements de terre, des volcans, plein de trucs, des tsunamis. Elles se choquent, elles dérivent, elles se cassent, elles plissent, et ça nous change profondément l'imaginaire de la Terre. Non seulement elle n'est pas le centre du monde, mais elle bouge. On a changé le lieu naturel. Ça fait d'ailleurs bouger tout le système de la recherche du XXe. Et c'est ça le paradigme. C'est un changement qui fonctionne sur un système. Une chose change, et en fait, tout doit changer autour pour que ça fonctionne. Et on a connu de pareils changements dans les domaines des sciences humaines, de l'ethnologie, de l'anthropologie, de la sociologie, de la psychanalyse. Donc ces changements-là, nous les vivons, nous les avons vécus. Sur 100 ans, on a intégré tous ces changements-là, on travaille dessus, on les comprend plus ou moins bien, mais on est dedans. Alors que l'Église n'est pas dedans. Donc on a une espèce d'écart qui se creuse en fait entre l'Église et la pensée du monde, qui fait que ça craque. Et les questions du synode, en particulier sur les divorcés remariés, sont pour moi comme un petit volcan qui montre que ça craque. Elle a connu par exemple la réforme grégorienne au XIe siècle, où la volonté de puissance des papes et des empereurs et des rois de l'époque ont fait qu'ils ont véritablement changé les règles sociales. C'est la disparition féodale en fait, et l'accession à des pouvoirs puissants et centralisés, des rois, des empereurs, des papes. Et même s'ils avaient l'air de se battre, en fait ils se sont appuyés les uns les autres pour changer la face des nations et de l'Église. Et ça a causé par exemple encore un séisme, puisqu'on est dans cette métaphore-là, la séparation avec l'Église d'Orient, qui se passe à ce moment-là. Alors l'Évangile, en fait, c'est une petite incursion dans l'Évangile, nous apprend finalement comment gérer ces déplacements de paradigme. On peut repenser ensemble au récit des pèlerins d'Emmaüs, que tout le monde connaît souvent très bien, parce que c'est un magnifique récit. Et je le relis très rapidement. Ils retournaient dans leur village, enfin, je ne relis pas le texte exact, je le résume, pour le mettre en relation avec cette histoire de changement de paradigme. Ils retournaient dans leur village, ils avaient une vision du monde où ils attendaient un chef charismatique qui sauverait Israël. Je me demande d'ailleurs si les catholiques n'attendent pas du pape un même changement. Et en politique, nous aimerions bien aussi avoir un sauveur plutôt qu'un homme normal. Ils disent, nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Ils avaient donc interprété son action, ses paroles, avec les grilles et les idées de leur temps, de telle façon que sa mort est une rupture pour eux, une grande difficulté, une catastrophe. Et ils sont véritablement découragés. Nous sommes peut-être dans un temps de ce style. Et pourtant, en parcourant le chemin, en discutant avec lui, ils découvrent tout autre chose. Jésus, en leur parlant et en marchant avec eux, opère un déplacement de paradigme sur le pouvoir, sur la vie, sur la mort, sur le salut, sur la rencontre et l'amitié. Et cela en quelques lignes. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils dirent, notre cœur était brûlant pendant qu'ils en parlaient. Je crois qu'on a un très beau texte sur le fait que l'Évangile-là nous autorise à bouger, nous autorise à nous déplacer. Et le résultat, c'est le bonheur, ils sont heureux. Et le résultat, c'est qu'ils retournent à Jérusalem, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'action, ils se retrouvent, enfin, il se passe plein de choses derrière. Donc, voilà. J'aimerais qu'on ait tous cette attitude-là dans l'Église, plutôt que de se freiner sur des lois, des choses qu'il faut faire, pas faire, des interdits, des condamnations. Qu'on discerne vers quoi on va et comment retrouver une vision de la mort, de la vie, du pouvoir, de la rencontre et de l'amitié qui serait porteuse et pas catastrophique. Et je pense que c'est possible. Je vois même pas pourquoi c'est pas possible. Voilà. En fait, quand la vision du monde change, l'attitude change. Donc, encore une fois, reprenons nos évangiles pour essayer de vivre ces changements qui, effectivement, sont parfois difficiles à comprendre. Alors là, j'arrive à la question de l'égalité, qui est donc dans le titre de notre livre, « Enquête sur l'Église et l'égalité des sexes », comme changement de paradigme. Nous avons vu que la structure de l'Église est inégalitaire, très profondément. Il se trouve que l'égalité entre hommes et femmes est un des changements de paradigme de notre terre. Et là, dans notre terre, dans notre monde, quand en Tunisie, tout le monde s'est réjoui que dans leur constitution, ils ont mis égalité entre hommes et femmes et non pas complémentarité, tout le monde était content parce qu'on sait que la complémentarité, c'est l'infériorisation des femmes. Alors qu'on sait que l'égalité va permettre de bouger. Ça ne veut pas dire qu'on est égaux comme ça d'un coup. Ça veut dire que les représentations vont changer, que chacun va faire l'effort, et les femmes d'en faire un peu plus, de se montrer, d'oser parler, d'oser prendre des responsabilités, et les hommes de respecter les femmes, de chercher quelles sont leurs compétences. Et là encore une fois, tout le monde y gagnerait. Alors, une précision, l'égalité, ce n'est pas une nouvelle foi, ce n'est pas une idéologie. Souvent on dit, on aurait tort que l'égalité, on en a marre, on n'est pas égaux évidemment, on est tous différents. Parce qu'en fait, si on prend l'égalité comme concept ou comme idéologie ou comme foi, effectivement, ce n'est pas suffisant, on ne va pas vivre qu'avec l'égalité. En fait, c'est un concept, c'est un opérateur de pensée. C'est une philosophe qui s'appelle Geneviève Fraisse qui m'a expliqué ça, et qui a travaillé d'ailleurs avec cet opérateur de pensée. Moi, quand elle m'a dit l'expression, j'ai compris. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, c'est un outil pour voir autrement. Comme Galilée avait inventé une lunette, et que du coup, il a changé sa vision du monde pour l'approcher en fait de plus près, l'égalité est une sorte de lunette pour voir le monde autrement, et en particulier pour déceler les injustices. Les femmes sont les pauvres, mais on ne le voit pas. Les femmes sont les pauvres, mais on est indifférent. Les femmes sont les pauvres, mais le gouvernement ne va pas faire grand-chose, quoique, en ce moment, peut-être que ça bouge quand même sur ce plan-là. Dans le monde, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Et cette égalité, je la caractériserai très rapidement, c'est l'égalité de raison, c'est-à-dire que les femmes ont démontré par la mixité scolaire qu'elles sont à égalité avec les hommes, plus personne ne le conteste. Deuxième élément, les femmes ont acquis et sont en passe d'acquérir leur autonomie par les droits civiques, par le travail et par la contraception. D'après Françoise Héritier, c'est le levier du changement majeur pour l'humanité de la situation des femmes dans le monde. Troisième élément, elles sont sorties de l'espace privé pour investir l'espace public, même si on se moque encore beaucoup des femmes ministres. Malgré tout, aujourd'hui, les femmes sont admises à parler, comme je fais là. Je ne l'aurais pas fait il y a 10 ans. C'est vraiment parce que j'ai travaillé que je me suis dit, mais oui, dans le fond, oui, je peux prendre la parole. Donc, vaste changement quand même, qu'il faut aborder, je pense, avec beaucoup de positif, beaucoup même d'espoir, dans la mesure où ça va nous faire avancer sur l'injustice du monde. Alors maintenant, l'Église, eh bien, elle est véritablement bloquée sur ce sujet. Et je crois que c'est vraiment ça qu'elle devrait essayer de réfléchir. Mais quand je vois comment le livre a été reçu par... même par la direction de Bayard, par les journaux autorisés, on a été vraiment agressés, dénigrés, de façon très sexiste. On s'est dit, ah bon, à ce point-là, quand même, très très étonnant. Et en retravaillant les textes, et en reprenant des textes qui sont là, on se rend compte que le magistère a élaboré un discours de la différence des sexes qui s'oppose à la pensée de l'égalité des sexes. Et elle lutte pour influencer aujourd'hui très profondément les sociétés. C'est-à-dire qu'au lieu d'accompagner un mouvement de justice et de reconnaissance de l'autre, en fait, elle lutte contre. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait ce livre. C'est-à-dire que je me dis, l'Église catholique lutte. Mais contre ça, mais c'est pas possible. Enfin, y a quelque chose qui ne va pas du tout. Alors, quelle est la base de leur argumentation? En fait, on retrouve toujours à peu près les mêmes éléments. Ils confondent ou ils feignent de confondre égalité et identité. Si nous sommes égaux, nous sommes identiques, disent-ils. Pas du tout. Comme si l'égalité impliquait la confusion et l'identique, comme si la demande d'égalité effaçait la différence sexuée, alors qu'en fait on peut être égaux et de sexe différent, ça me semble-t-il. En fait, ils n'arrivent pas à penser que chacun est irréductiblement différent de chaque autre, qu'il n'y a pas besoin d'essentialiser chaque sexe sur un idéal qu'il faudrait que chaque sexe atteigne. Par exemple, Benoît XVI dit « L'égalité équivaut à l'auto-émancipation de l'homme par rapport à la création et au créateur. L'homme veut se construire tout seul et décider toujours et exclusivement seul de ce qui le concerne. De cette manière, il vit contre la vérité, il vit contre l'esprit créateur. » On a des paroles extrêmement fortes qui sont quand même vraiment très difficiles à accepter. Enfin, moi, personnellement, je refuse qu'on me dise ça. Oui, c'est vrai que c'est compliqué, c'est beaucoup de mots. Alors, Benoît XVI dit. Benoît XVI est quelqu'un qui a fait travailler sur le genre. Dès les années 95, il n'était pas encore pape, il a demandé à des gens de travailler sur le genre, et il a sorti plusieurs discours et plusieurs textes qui sont donc qu'il veut argumenter contre le genre. Quand je dis le genre, c'est-à-dire c'est les études de genre, c'est tout ce travail anthropologique qui a été fait pour essayer de comprendre ce qui était attendu de chaque sexe, en fait. Le genre, c'est on attend des femmes qu'elles soient douces et polies et qu'elles se taisent, et on attend des hommes qui soient des bons leaders, par exemple. Beaucoup d'autres choses pourraient être dites, mais voilà. Et ils font vraiment comme s'ils ne comprenaient pas, ou alors ils ne comprennent pas vraiment, ce qui est un petit peu plus embêtant. Je redis la phrase. L'égalité équivaut à l'auto-émancipation de l'homme par rapport à la création et au créateur. Donc on est dans un gros péché de la Genèse. C'est ça que ça veut dire, en fait. On est dans une rupture par rapport à Dieu. Alors, je pense qu'il parle homme-femme, c'est-à-dire de l'homme qui veut étudier le genre, l'être humain, voilà. Et, c'est-à-dire qu'il veut nous ramener à la Genèse comme si c'était un péché de penser l'égalité homme-femme. Il continue, l'homme veut se construire tout seul et décider toujours et exclusivement seul de ce qui le concerne. Parce que dans la pensée du pape, c'est le magistère qui doit dire à l'homme ce qu'il doit être et faire. Et là aussi, quand je vous dis ça, je résume des quantités de phrases que j'ai lues. Hein, c'est pas moi qui l'invente ou qui interprète. Alors Jean-Paul II va dire « L'analyse scientifique confirme pleinement le fait que la constitution physique même de la femme et son organisme comportent en eux la disposition naturelle à la maternité, à la conception et à l'accouchement de l'enfant. » Bon, on n'a pas besoin de lui pour le savoir. Mais il continue. Cela correspond en même temps à la structure psychophysique de la femme. La maternité est liée à la structure personnelle de l'être féminin et à la dimension personnelle du don. Nous voilà donc revenus à nos rôles de mère, de structure personnelle de la femme et à la dimension du don. Obligé. Donc en fait là, on voit pointer la raison de ce refus. C'est qu'il faut absolument que les hommes et les femmes gardent leur rôle respectif. Tous les papes vont répéter ces phrases-là. Benoît XVI. La sexualité caractérise l'homme et la femme, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique et spirituel. Donc, si vous voulez, le corps biologique de la femme la marque entièrement. C'est-à-dire qu'elle dépend absolument du fait qu'elle est sexuée biologiquement. Et même François qui dit « Les femmes ont une structure différente des hommes. » Et ce qui est terrible, c'est que quand vous lisez cette document Sœur Signoret dont je vous parlais tout à l'heure, qui a servi donc à interdire, à dire que les femmes ne seraient jamais prêtres, il écrit « À peine est-il nécessaire de rappeler que dans les êtres humains, la différence sexuelle exerce une influence plus profonde, par exemple, que par exemple les différences ethniques. Celles-ci n'atteignent pas la personne humaine aussi intimement que la différence de sexe. » Donc là aussi, on voit pointer que la différenciation entre hommes et femmes, ou entre races, est de la même structure, en fait. C'est-à-dire qu'on différencie pour hiérarchiser. Donc, ça, c'est, si vous lisez des livres de Françoise Héritier, elle démontre de façon absolument passionnante. Et on se rend compte que l'argument de la différence, c'est ce qui permet la hiérarchisation entre ceux qu'on a différenciés. Et ce qu'a laissé échapper le cardinal Sepper montre bien que c'est extrêmement structurant. Parce que nous savons bien, nous, aujourd'hui, que les différences entre races ont servi à coloniser d'autres races et à se dire que nous étions supérieurs. En fait, on est exactement dans le même mécanisme. Et en même temps, c'est tellement intériorisé qu'on se surprend, je me surprends parfois, à avoir encore ce mécanisme-là. Or, notre différence, elle est effectivement ordonnée à la procréation, mais par ailleurs, il y a des femmes qui sont très autoritaires, des hommes qui sont très doux, on a les mêmes besoins de nourriture, on a les mêmes éléments de caractère qui sont combinés de façon différente, mais ce n'est pas parce qu'on est homme ou femme qu'ils sont tels ou tels. Et quand on commence à se rendre compte de ça, et bien en fait c'est extrêmement libérant. Voilà. Alors, beaucoup d'autres citations, mais il faut quand même avancer pour que vous puissiez un petit peu parler. Voilà, je crois, je passe un petit peu pour avoir un petit peu plus de temps, pour vous, je pense personnellement que c'est une impasse. C'est-à-dire que si l'Église catholique n'arrive pas à penser à l'égalité, je pense que ces jours seront difficiles. Je ne vois pas comment elle peut ne pas penser. Et ce qui est problématique, c'est qu'il faut penser sur le fond. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire de la pastorale, comme le synode tente de le faire, pour essayer d'améliorer les quelques absurdités sur les divorcés remariés. Il s'agit vraiment de repenser le droit et la doctrine, et tous ces discours-là. Donc, on n'y est pas arrivé. En fait, il faut un concile, puisqu'ils ne peuvent remettre en jeu la doctrine que dans un concile. Donc je pense qu'elle est actuellement dans une impasse et qu'il faudra qu'elle bouge, ou alors sinon ça va craquer comme les volcans, voilà. J'aimerais bien prendre un tout petit moment de conclusion en reprenant l'évangile et en essayant de se dire, avec ce qu'on connaît des textes, donc on en a étudié plusieurs dans le livre, comment Jésus finalement se situe dans cette affaire-là. Et en fait, il apparaît très clairement, encore une fois, quand on lit l'évangile avec cette lunette-là, que Jésus défait le partage des rôles. Il ne s'en occupe absolument pas. C'est pas du tout son problème. Et pour moi, ça a été assez enrichissant. Alors j'avais déjà beaucoup travaillé des textes, et j'avais cette analyse-là, mais sans l'avoir vraiment formalisée. Il reconnaît les femmes comme des égales aux hommes, et c'est vraiment pour moi une révélation, au sens fort du terme. Je pourrais commenter par exemple les annonces de la résurrection, puisque la parole normalement est réservée aux hommes. Or, il se trouve qu'il a confié malgré tout la première annonce de la résurrection aux femmes. Et on peut remarquer que la première Église a tout de suite retiré la parole aux femmes. Les actes des apôtres, plus personne. Ouais. fixe et bien structuré dès le départ, autour du masculin. Mais j'ai plutôt parlé du couple pouvoir-service, donc je préfère rappeler plutôt le récit du lavement des pieds. Et le message est le même, il défait le partage des rôles. Vous la connaissez bien, je pense, cette scène. Jésus explique le sens du service en accomplissant un geste féminin. C'est un acte transgressif. Jésus ne raconte pas une parabole, il pose un geste fort. Il se lève de table, il dépose son manteau, il prend un linge dont il se seint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il dépose son manteau. Le manteau, c'est l'attribut du pouvoir royal dans l'Ancien Testament. Il se défait symboliquement de son pouvoir. Il se seint d'un linge qui est un attribut féminin, du ménage, du service, du soin de l'autre. Il verse de l'eau, il essuie les pieds. Autant de détails pratiques, concrets. Ce sont des gestes réservés aux servantes et aux filles de la maison, c'est-à-dire réservés à ceux qui sont de la condition la plus basse de la maison. Et ainsi, le texte de l'Évangile rend les femmes présentes en creux. Et on voit bien qu'il a appris d'elles les actes indispensables au bien-être et à la vie. Il prend soin, il guérit, il nourrit, il lave. Il apprend aussi les gestes de la mort avec la femme au parfum. Et il se met à leur place dans le lavement des pieds. Il reprend à son compte les gestes d'attention, d'accueil, de soin. Il montre ce que veut dire aimer. Mais pour prendre la place du service, il a dû enlever son manteau. Et je pense que c'est un détail qu'il ne faut pas oublier. Quand on a un peu travaillé l'Ancien Testament, on sait que le manteau, c'est quelque chose d'important dans la signification des textes. Et on peut dire qu'exercer le pouvoir, ce n'est pas servir. Pour servir, il faut se remettre de son pouvoir. Or, on entend beaucoup, en particulier chez les papes et les évêques, que le pouvoir est un service. Eh bien, moi, je pense que pas du tout. Je pense que le pouvoir, ce n'est pas le service. Ce sont des mots antinomiques, et on ne peut pas recouvrir le pouvoir par le service. Pour servir, il faut se démettre de son pouvoir. Et il indique là aux hommes comment se défaire de leur pouvoir et de l'évidence que les femmes doivent les servir. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre ce rôle de service. Ce qui ne veut pas dire que les femmes ne doivent pas servir non plus. Je pense qu'il libère, il défait les rôles en donnant le même rôle aux hommes et aux femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pouvoir non plus. Il remet son manteau quand il a fini son geste. Donc ça défait le partage des rôles dans la mesure où vraiment il demande, il commande, c'est un commandement qu'il donne aux apôtres en leur disant je vous commande de faire comme moi. Et en fait, c'est très difficile à comprendre puisque Pierre se met en colère. Deux fois, toi me laver les pieds, me laver les pieds à moi, jamais. Et il ne veut pas que Jésus s'abaisse à ce rôle inférieur, et il symbolise l'incompréhension et la représentation qu'il a de lui et de Jésus. Il met en évidence le mépris que peut ressentir un homme face aux gestes accomplis habituellement par les femmes. Et Jésus admet que c'est compliqué à comprendre. Il lui dit « Ce que je fais, tu ne peux pas le savoir à présent, mais par la suite tu comprendras. » Donc il nous donne quand même du temps pour réaliser ce geste-là. Et le texte se termine par un enjeu qui est celui du bonheur. Sachant cela, vous serez heureux, si du moins vous le mettez en pratique. Donc encore une fois, je reviens à quelque chose de positif. Je crois que si vraiment on prend à bras le corps cette question-là, et je pense que les protestants sont beaucoup plus avancés là-dessus, l'Église catholique aurait vraiment tout à gagner